Les briques de la vie peuvent naître à plusieurs kilomètres dans le manteau océanique et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel.
Oui Mathieu, et c'est une découverte importante puisque l'apparition de la vie est un sujet encore très débattu. Est-elle née au fond des océans, venue sur la Terre avec les météorites? Un peu des deux. Une équipe française montre aujourd'hui que certaines briques chimiques, les acides aminés essentiels à la naissance de la vie, peuvent se former sous le plancher océanique. Et pour en parler, nous sommes avec vous, Bénédicte Ménez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'Université Paris Diderot, directrice de l'équipe géomicrobiologie à l'Institut de physique du globe de Paris et vous avez coordonné ces travaux publiés dans la revue Nature. Alors, ces roches que vous avez analysées pendant 5 ans et dans lesquelles vous trouvez ces traces très intéressantes, d'où est-ce qu'elles viennent?
Alors, elles viennent du massif Atlantis. C'est un dôme qui est situé le long de la dorsale médio-atlantique. Et en fait, c'est un site qui héberge le site hydrothermal de Lost City qui a été découvert dans les années 2000 et qui a surpris toute la communauté parce que les fluides qui en ressortaient étaient riches en hydrogène, en hydrocarbures et du coup, d'où le lien possible d'un monde minéral et d'un monde organique, voire vivant.
Et quand vous avez commencé à les analyser, c'était les acides aminés que vous cherchiez, vous pensiez les trouver dedans?
Non, initialement, mon équipe est spécialisée dans la recherche de traces de vie et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de caractériser les micro-organismes qui vivent dans les roches et qui se nourrissent de l'énergie de la roche. Et donc, on cherchait à caractériser les micro-habitats et en tombant sur ces molécules organiques, on s'est aperçu en accumulant différentes caractérisations avec différentes sortes de microscopie qu'en fait, il y avait rien de vivant là-dedans et que c'était uniquement une série d'acides aminés qui semblait être complètement faite par des réactions chimiques.
Parce qu'au début, vous pensiez avoir trouvé de la vie, en fait?
Au début, on pensait avoir trouvé de la vie parce que c'est pas rare de trouver de la vie dans des roches jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la vie au fond des océans, on pense tout de suite aux fameuses sources chaudes. Or là, les roches viennent de très loin, dans des endroits beaucoup plus froids.
Oui, tout à fait. C'est une zone hydrothermale dont le moteur, en fait, est les réactions chimiques qui se produisent dans les roches. C'est une réaction qu'on appelle la serpentinisation, qui, en fait, hydrate ces roches du manteau quand l'eau de mer circule dedans. Et donc, du coup, ça fait un hydrothermalisme qui va rarement au-delà de quelques centaines de degrés.
Alors, pourquoi est-ce que trouver à cet endroit des acides aminés, ces briques de la vie, ça change la donne sur la naissance de la vie en elle-même?
Ben c'est vrai, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, beaucoup de gens pensent, comme on n'a pour l'instant pas trouvé de preuves de ces synthèses abiotiques sur Terre, on pense que toute la diversité organique, elle vient des météorites qui sont tombées sur la Terre primitive, parce que là, c'est vrai qu'on trouve une quantité de molécules organiques absolument phénoménale. Et donc là, c'est d'imaginer que les sources profondes de la Terre, qui sont riches en dioxyde de carbone, en eau, sont capables, dans les profondeurs des roches, d'aller convertir un monde minéral en un monde organique et de commencer justement toutes les réactions chimiques qui pourraient être à l'origine de ce qu'on connaît du vivant.
Et ça se passe à quelle profondeur là, exactement dans l'océan?
Dans l'océan lui-même, c'est entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, donc il faut que vous imaginiez les Alpes sous vos pieds quand vous êtes...
Des petites Alpes alors, oui,
voilà,
effectivement.
Des petites Alpes. Ouais, ouais. Et donc du coup, par contre, là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller forer ces roches, donc on est au-delà du plancher océanique, et donc ce forage qui a été mené par l'organisation internationale IEDP, qui est un consortium international, a été foré jusqu'à plus d'un kilomètre dans ce massif-là. Et c'est ces roches-là qu'on est en train de caractériser. Et donc les premières traces qu'on a vues, c'est vers 170 mètres.
Il y a une question que je me pose, Bénédicte Ménez. Si le manteau et le fond océanique a tout ce qu'il faut pour permettre à la vie d'apparaître, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui ces formes de transition entre la vie morte et la matière vivante?
Je pense qu'on est gêné par la vie, en fait. Parce que toutes ces cette vie qui colonise ces oasis que sont les sites hydrothermaux océaniques ou qui se déploient dans les pores des roches, en fait, elle est beaucoup plus concentrée que toutes ces réactions qu'on dit abiotiques sans intervention du vivant. Et donc, du coup, elles sont trop diluées et il est difficile d'aller les chercher, traquer derrière tout ce vivant.
Donc, il y a trop de vie pour trouver ce qui est entre la vie et la mort?
Probablement.
Est-ce qu'il est possible autrement que la Terre ait été propice à un moment à l'apparition de la vie et qu'elle ne le soit plus?
En fait, là, les roches que l'on a étudiées ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à ce qu'on pouvait trouver quand la vie est apparue sur Terre à l'Archéen. À cette époque-là, en fait, toute la croûte était faite de minéraux qui s'apparentent à ceux qui constituent les roches du manteau. Donc, on peut imaginer un processus continu depuis le début de la tectonique des plaques jusqu'à maintenant, avec des réactions qui se sont enchaînées.
Alors, Antoine Kouchner, je vois écouter attentivement Bénédicte Ménez. Vous êtes d'ailleurs de la même université Paris Diderot, mais dans des disciplines très différentes. Alors, vous, justement, question. Antoine Kouchner, qui est responsable, entre autres, de cet instrument Antares, en fait, de cette expérience, qui est un télescope au sein de la Méditerranée pour aller traquer les neutrinos. Est-ce que ça pourrait servir, justement, à aller sur les traces des tout débuts de la vie, là, ou pas, ce système?
Je suis pas certain qu'on puisse aller sur les traces du tout début de la vie, mais c'est vrai qu'on est installé au fond des abysses en Méditerranée.
Pour faire de l'astronomie?
Pour faire de l'astronomie, j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Ouais. Mais que du coup, on est un observatoire multidisciplinaire et qu'en fait, en temps réel, parce que nous sommes câblés à la côte, on enregistre tout un tas de données, que ce soit l'activité des cétacés à travers le son qu'ils produisent, mais aussi la concentration en oxygène, en dioxyde de carbone. Donc on regarde sur des longues périodes et en temps réel l'évolution des abysses. Donc c'est certainement quelque chose d'intéressant.
Une dernière question, Bénédicte Ménez. Là, vous trouvez quelque chose de très intéressant entre l'eau et la roche en interaction, et ça se passe sur d'autres planètes aussi, ces interactions. Est-ce que ça peut nous aider à traquer la vie ailleurs?
C'est effectivement des roches qui sont communes et notamment dont on sait qu'elles existent aussi sur Mars. Et donc du coup, effectivement, on pourrait imaginer des choses similaires qui se seraient déroulées sur d'autres planètes. Et notamment aussi, on a des grandes preuves de sites hydrothermaux sur Encélade qui déchargent aussi des grandes quantités d'hydrogène et qui pourraient aussi s'assimiler à ce type de réaction. Donc on peut imaginer qu'on a des chimies similaires dans le système solaire et qu'on pourrait explorer. Par contre, ça n'a rien à voir avec la vie.
Et ces roches, justement, publiées dans Nature, est-ce que c'est finalement un élément supplémentaire dans le scénario qui permet d'essayer de comprendre l'apparition de la vie? Il faut l'envisager comment, alors?
Effectivement, une des théories pour l'origine de la vie, ce sont les sources hydrothermales dans lesquelles auraient pu apparaître ces molécules et qui auraient pu être protégées donc de la surface qui était inhospitalière à l'époque où la vie est apparue sur Terre. Par contre, on ne sait pas, on est incapable d'affirmer que ces acides aminés-là constituent vraiment des blocs du vivant. Par contre, on sait que les acides aminés sont des catalyseurs d'autres réactions chimiques, donc ils ont peut-être été des précurseurs pour une complexification de l'ensemble de cette chimie prébiotique.
C'est la question de la vie qui est complexe. Hein.
C'est la question de la vie qui est
complexe. On le voit bien. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Bénédicte Ménez, vous êtes géobiologiste. Merci infiniment. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à Angoulême, des archéologues de l'INRAP mettent au jour un site préhistorique exceptionnel daté de 11 000 ans, avec 200 000 silex, 400 pointes de flèches, des traces de camps et de feu. Le site de 2000 mètres carrés se trouve sur l'îlot Renaudin, à Angoulême. Il permet de suivre l'évolution des pratiques humaines sur plus de 4000 ans, en plein dans une période de transition climatique. Selon les découvreurs, une fois la fouille terminée, il servira certainement de référence pour toute la communauté. Le rire des bébés et des chimpanzés est très similaire. Les bébés humains ont un rire très particulier, différent des adultes, car nos chers bambins rigolent à la fois lors de l'expiration, mais aussi lors de l'inspiration. Écoutez plutôt. Voilà le rire d'un bébé. Eh bien, figurez-vous qu'une équipe néerlandaise a comparé ce rire à celui de primates et particulièrement ceux de chimpanzés. Et il montre que ces rires sont très proches. Une question perdure cependant. Pourquoi sommes-nous les seuls primates à perdre ce rire double en grandissant? Et puis pour terminer, pas facile d'apprendre à s'habiller même quand on est une intelligence artificielle. La capacité à enfiler son t-shirt ou retirer son pantalon peut vous paraître innée, mais c'est un apprentissage très complexe qui requiert pour l'humain de nombreuses heures d'attention parentale. Des chercheurs de l'Institut des technologies de Géorgie ont essayé d'apprendre à s'habiller à des pantins dirigés par une intelligence artificielle. Le résultat est à voir en vidéo sur notre page Facebook, c'est hilarant, et vous remarquerez que les erreurs des pantins sont les mêmes que celles de vos enfants, justement.